100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avions, à partir du mois d'avril, enregistré des émissions sur le XXe siècle, 1924, 34, 44, etc. Alors, je me suis dit, sautons un siècle, que s'est-il passé en 1824? Donc, il y a deux siècles exactement. Ce qui n'est pas totalement dépaysant, puisque ce sont les premiers chemins de fer en Grande-Bretagne et près de Saint-Étienne, en France. Alors, rappelons d'abord les faits majeurs qui concernent la France. Eh bien, nous changeons de roi cette année-là. C'est à 69 ans la mort de gangrène généralisée de Louis XVIII, qui meurt sans enfant, frère cadet de Louis XVI, petit-fils de Louis XV, donc la dynastie directe des Bourbons. Les historiens disent de nos jours qu'il a été relativement habile, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré un trait sur toute la Révolution et sur tout le Premier Empire. Il a gardé beaucoup d'éléments, il a essayé de se concilier la bourgeoisie, il n'a pas encouragé les vengeances qui, évidemment, ont existé, ce qu'on a appelé la Terreur blanche, après la Révolution et l'Empire. Mais il a été, à la fin de son règne, à la fois très malade et obligé par les élections, qui étaient des élections censitaires, on ne pouvait voter que si on payait plus de 200 francs or d'impôts, ce qui est énorme. Donc seuls les riches, les hommes et des propriétaires ou grands commerçants ou capitaines d'industrie avaient le droit de vote. Il y avait peut-être 150 000 électeurs dans la France de l'époque qui faisaient 32 millions d'habitants. Donc un peu moins de la moitié du nombre d'habitants actuels. En politique extérieure, en 1823, dans le cadre de la Sainte Alliance, dirigée par Metternich, le chancelier autrichien, il avait envoyé une partie de l'armée française, il en reste à Paris, l'esplanade du Trocadéro, prendre la ville de Cadix dans le sud de l'Espagne pour écraser les libéraux et remettre en place un roi espagnol absolutiste. Il est remplacé le 16 septembre par Charles X, le dernier de nos rois bourbons, puisqu'après ce sera Louis-Philippe, c'est la branche des Orléans. Il a 66 ans. Les historiens ne lui trouvent pas beaucoup d'intérêt, sinon davantage. C'est lui qui voudra absolument être sacré à Reims, ce que Louis XVIII avait bien évité de faire. Il a un fils qui aura un fils, mais la dynastie va s'arrêter, de toute façon, faute de descendants, en 1885. Et il prend beaucoup de mesures fort peu habiles, il va s'aliéner l'essentiel de l'opinion, même les paysans, qui étaient plutôt royalistes. Il va s'aliéner la quasi-totalité de la bourgeoisie, même les monarchistes modérés, bien sûr les bonapartistes le détestent, les orléanistes aussi. Et lorsque, en 1830, on l'a étudié, il va prendre des mesures liberticides très fortes, notamment mettre fin à la liberté de la presse, qui était déjà bien écornée, comme il avait envoyé en 1830 l'essentiel de l'armée française prendre Alger, parce que c'était un nid de piraterie très gênant pour le commerce méditerranéen, mais pas seulement, il n'y avait plus d'armée pour défendre le roi à Paris, et au bout de 3 jours, Charles X perd le pouvoir, s'enfuit en malle-poste, ou en chaise de poste, comme on disait à l'époque, va errer d'un pays à l'autre en Europe où il n'est plus rien. Et il va mourir. C'est une ville qui est à l'heure actuelle sur la frontière entre le Frioul italien et la Slovénie. C'est Göritz à l'époque, Gorizia, Gorica en Slovénie, où il y a le tombeau de notre dernier roi Bourbon, de Charles X. Personne ne le sait, personne n'y va et personne n'a jamais demandé à ce qu'il soit rapatrié en France métropolitaine. Sur le plan économique, 1824, donc ce sont les premières concessions de voies ferrées près de Saint-Étienne, parce qu'il s'agit d'envoyer du charbon vers Paris. Et ensuite, le charbon navigue sur la Loire et sur des canaux pour atteindre Paris. C'est le grand ingénieur français Marc Seguin d'Annonay, dans le nord de l'Ardèche. Il a 38 ans et c'est lui qui est en train d'améliorer la chaudière des premières locomotives et de construire les tout premiers ponts suspendus sur les fleuves, à Tournon, entre autres, et à Serrières, sur le Rhône. Il y a vraiment une période de modernisation. Il y a de grands travaux en France, sous les deux rois, et 1824 est à la charnière, des drainages de marécages pour les rendre cultivables, modernisation des routes, empierrées bien sûr, à l'époque, l'irrigation en Provence, qui était peu développée jusque-là, et par exemple, amélioration des routes, Paris-Bordeaux, il n'y a pas encore le chemin de fer, ce sera plus que 7 jours. On avait donné un autre chiffre plus tôt. Schématiquement, le nord de la France est riche et moderne. Le sud de la France est pauvre et encore très à la traîne sur le plan économique et technologique. Alors, quelques données au niveau international. Ah, cette année-là, c'est la doctrine de Monroe. Elle est bien oubliée, mais on la rappelle de temps en temps. Les États-Unis, qui ne sont pas la grande puissance, qui deviendront plus tard, les États-Unis font savoir au monde entier, et surtout à l'Europe, et en particulier à Londres, que aucun pays ne devra s'occuper du continent américain. Le continent américain du nord au sud leur est, sur le plan géopolitique, mais surtout économique, réservé. Bon, ils n'ont peut-être pas en 1823-24 les moyens d'appliquer cette doctrine, mais elle est toujours valable. Deux siècles après, la doctrine de Monroe, qui était un homme politique américain très important. Autrement, l'Angleterre est maîtresse des mers et des océans. Donc, elle s'installe en Birmanie, elle achète Singapour, qui va être le grand port anglais du sud-est asiatique, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Elle développe ses colonies en Australie. Voilà. En Amérique latine, il y a la suite des indépendances. Le Brésil achève son indépendance, qui avait été proclamée un peu plus tôt. Le Pérou proclame son indépendance, 1824. Le Mexique l'a fait l'année précédente et se dote de sa première constitution. Ce sont les indépendances par rapport à l'Europe, c'est-à-dire au Portugal pour le Brésil et à l'Espagne pour les autres territoires. C'est la guerre d'indépendance grecque qui va durer jusqu'en 1830 et qui va provoquer chez beaucoup d'Européens cultivés et chez les poètes et littérateurs français, anglais, italiens, un immense sentiment de sympathie, puisque cette année-là, le grand poète anglais Lord Byron va en Grèce pour combattre aux côtés des Grecs et meurt du paludisme à Missolonghi. Cette année-là, la Russie négocie avec la Suède sa frontière de Finlande. On en reparle depuis quelque temps, donc 1824. Autrement, c'est le chancelier Clemens Metternich, 51 ans, qui est à la tête de l'Autriche au niveau politique et qui, disons, est le gendarme de l'Europe et vérifie tout ce qui se passe au niveau international. Et son obsession est d'empêcher l'unité italienne et l'unité allemande. Alors, au niveau culturel, en France, il y a des écrivains qui sont jeunes mais prometteurs. Alfred de Musset, à 13 ans, est un brillant lycéen au lycée Henri IV à Paris, et il commence à écrire des poésies qui vont se faire remarquer. George Sand, à 20 ans, elle s'est mariée avec le baron Dudevant et elle écrit déjà. Balzac, à 25 ans, il écrit déjà des romans sans grand succès pour l'instant. Michelet, qui sera le grand historien français de la première moitié du siècle, agrégé docteur en histoire déjà en 1824 et professeur dans un collège réputé, et fait des recherches pour écrire ses œuvres monumentales, entre autres sur la Révolution française. Au niveau musique, Berlioz, à 20 ans, commence à composer. Au niveau Italie, c'est Donizetti, qui est un grand compositeur d'œuvres et d'opéras célèbres, mais on écoute dans toute l'Europe les opéras italiens que nous écoutons toujours, bien sûr, Rossini, Gioacchino Rossini, qui est extrêmement célèbre, même s'il n'a que 32 ans. Les œuvres de Cherubini, qui à 63 ans dirige le Conservatoire de Paris. On connaît en Europe les œuvres de Franz Schubert, 27 ans, qui mourra si jeune. Les peintres, eh bien, Delacroix à 26 ans, il vient de peindre Dante et Virgile aux Enfers. Et en 24, il va se faire connaître dans toute la France par le tableau Les Massacres de Kyo, ce qui veut dire qu'il prend parti pour les Grecs, contre l'Empire ottoman. Ingres à 44 ans. Il peint cette année-là le vœu de Louis XIII. Le grand sculpteur Rude a 40 ans. Mais les deux rois Bourbons ne l'apprécient pas, alors il s'est exilé à Bruxelles. Autrement, au niveau de la littérature, Chateaubriand a 56 ans, il est très célèbre. Il est même ministre de Charles X, qui va le trouver un peu trop modéré. Bon. Lamartine a 34 ans, il a publié les Méditations l'année précédente. Il se partage entre son château de Saint-Point, près de Mâcon, et Florence, en Italie. Alfred de Vigny a 27 ans, il s'ennuie copieusement à Pau en garnison, parce qu'il est militaire, et cette année-là, il écrit Le Corps. Très célèbre poème. Stendhal a 41 ans. On le lit beaucoup, c'est le chef de file des romantiques. Cette année-là, il compose De l'amour, il écrit Racine et Shakespeare. Bon. Dans le domaine surtout scientifique, à 55 ans, le grand scientifique européen qui voyage énormément dans les Andes, c'est Humboldt, scientifique allemand. Dans tous les domaines des sciences de la nature, le mathématicien Coriolis, qui va laisser son nom à une célèbre loi physique sur les conséquences des mouvements de la Terre en météorologie. Des grands médecins, Larrey, Velpeau, Laennec, à 43 ans, il a inventé le stéthoscope. C'est un très grand médecin, Brousset, qui est le grand médecin de tout ce qui est inflammation. Pinel de Lyon, qui s'est spécialisé, c'est très rare à l'époque, dans les maladies mentales. Autrement, au niveau des scientifiques, Ampère, la galvanoplastie, l'électricité, pas seulement. Depuis 10 ans, il est très important à l'Académie des sciences. Cuvier, à 55 ans, qui est géologue, zoologue. Gay-Lussac, 46 ans, qui termine ses lois physiques sur les gaz. Chaptal, qui dirige l'école des arts et métiers, la chaptalisation. Dans le domaine de la viticulture, on en parle encore par moments. En Angleterre, c'est Faraday, Michael Faraday, le benzène, l'électrolyse, toutes les études sur l'électricité, bien qu'il n'ait que 33 ans. Et Nicéphore Niépce, 59 ans, près de Dijon, qui l'année précédente a inventé la photographie. Photographie en noir et blanc, évidemment. Balbutiement, mais Nicéphore Niépce va se faire un nom. Voilà, autrement, parmi les peintres, Madame Vigée-Lebrun, qui a été un grand peintre, elle a 69 ans, elle va vivre encore jusqu'en 1842, mais elle s'est retirée à Louveciennes, près de Paris, et peint un peu moins. 1824, l'invention du rugby par William Webb Ellis. On pense que c'est fin 23, début 24. On sait moins qu'il est inhumé à Menton, au cimetière de Menton. C'est la construction du grand théâtre le Bolchoï à Moscou. Et puis alors, 1824, deux choses. Le grand poète allemand, Heinrich Heine, a 27 ans, et il compose cette année-là le poème sur la Lorelei. La fée de la trouée héroïque du Rhin. Et ce poème sera mis en musique bien plus tard et sera une des très célèbres chansons allemandes, la Lorelei. Mais alors, 1824, à 54 ans, il n'a plus que 3 ans à vivre, Beethoven compose la 9e symphonie. Et à la fin de la 9e symphonie, il inclut ce qui est rare dans une symphonie, donc des chants, et en particulier l'ode à la joie Andy Freud, l'ode à la joie du grand poète allemand Schiller, Alle Menschen werden Brüder, hein, tous les hommes deviennent frères. Voilà, donc on ne peut pas faire autrement que de terminer cette rétrospective d'il y a 2 siècles par quelques mesures de la 9e symphonie de Beethoven, qui, rappelons-le, tout au moins rarement avec les paroles, harmonisé par Herbert von Karajan, est devenu l'hymne européen. Merci à toutes et à tous.